L'émission Fahrenheit 89.1 vous est présentée par le Cinéma Le Clap, diffuseur d'œuvres cinématographiques internationales et québécois depuis 35 ans.
Sur les ondes de CKRL. Vous êtes à l'émission Fahrenheit 89.1. Pierre Blais au micro en compagnie d'Annie Saint-Pierre. Annie, bonjour.
Bonjour.
Annie, remplacement d'Anne-José Cameron. Habituellement, tu es là pour une chronique.
Oui.
Mais pas seulement.
Non, ce soir, je suis également là pour une entrevue avec Ariane Michaud.
Qui est déjà en studio, qui est prête à accueillir tes questions, hot seat ce soir, avec un livre qui s'intitule...
Maladeur n'influence personne.
De ton côté, parce que tu restes avec nous, davantage que simplement pour l'entrevue, puisque tu auras ta chronique habituelle.
Oui, exactement.
Cette semaine, de quoi tu vas nous parler?
Je vais vous parler de deux romans, dont il y a roman dans le titre. Donc, Roman sans rien d'Antoine Charbonneau-Demers, ainsi que le roman d'Isoline de David Turgeon.
Ben voilà, ça c'est en deuxième demi-heure. Toujours en deuxième demi-heure, Moussima va venir nous parler du dernier film de Louise Archambault qui est sorti vendredi passé. Ça s'appelle Harry Narsvoz, et c'est un film qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, adapté d'un fait historique d'une femme qui a réussi à sauver plusieurs juifs qui étaient menacés de mort. On est en Pologne en les cachant dans le sous-sol d'un dirigeant allemand. Donc, on va parler de ce film qui est encore à l'affiche présentement. Et dans la première demi-heure, après l'entrevue avec Ariane Michaud, Olivier Bilodeau va venir nous parler de deux films. L'un qui a pris l'affiche la semaine dernière, une coproduction avec la France, le tout dernier long-métrage de Bertrand Bonello qui s'intitule La Bête. C'est une adaptation d'un livre d'Harry James. Et aussi Human, qui est d'une Cronenberg, pas David, le père, ni Brandon le frère, mais bien la sœur de Brandon et la fille de David. Il s'agit de Caitlin Cronenberg qui nous arrive avec un premier long métrage qui s'appelle Human et qui prend l'affiche demain au cinéma Le Clap. Dans quelques secondes, La laideur n'influence personne, entrevue d'Annie avec l'autrice Ariane Michaud.
Nous sommes avec Ariane Michaud. Ariane, bonsoir.
Bonsoir.
Maladeur n'influence personne, deuxième livre. Ton premier, Les mouches de papier, paru en 2019 aux éditions Carré, avait fait fureur. Donc, tu nous reviens avec un recueil de récits cette fois.
Oui.
Avec un recueil de récits autour du corps. On va dire démembré pour être capable de nous véhiculer un peu comment tu te sentais à l'âge adolescente. Quel a été l'élément déclencheur de cette espèce de ras-le-bol envers la pression du corps?
C'est quelque chose qui me préoccupait depuis quand même longtemps, surtout en parcourant à peu près comme tout le monde les réseaux sociaux, dont Instagram, puis d'avoir constamment là, des publications liées au corps, à l'espèce de... le corps comme le body positivity, là, pardonnez l'anglicisme, mais comme vraiment, il faut mettre de l'avant, regarder comme il faut s'accepter, on est belle, puis ça revient, puis finalement, cette omniprésence-là du corps dans le discours, je me faisais la réflexion de, je me demande, tu sais, moi, j'ai pas grandi avec les réseaux sociaux, mais je me dis, les jeunes qui vivent ça actuellement, tu sais, je faisais juste replonger dans mon adolescence, puis je me disais, c'était déjà si compliqué de s'accepter à cet âge-là. Maintenant, avec cette couche-là de surinformation puis d'algorithme qui vient vraiment exacerber comme le questionnement puis la figure du corps, je me disais, c'est certain que pour eux, ça doit être encore plus difficile. Puis c'est là que ça m'a mis à me questionner puis à me replonger justement dans mon enfance et mon adolescence, d'où ça partait aussi des complexes que j'avais sur mon corps puis comment ça s'est transformé en vieillissant aussi.
D'accord. Puis est-ce que c'est à ce moment-là que tu as décidé d'écrire « Maladeur n'influence personne » ou il y a eu autre chose qui est venu ajouter, qui t'a donné l'élan d'écrire là-dessus?
Bien que j'avais quand même plusieurs anecdotes sur ce sujet-là qu'on se racontait entre amis parce qu'on aimait ça jaser de « Ah, oh, tu te rappelles-tu quand on était jeune, on aimait pas telle ou telle chose, nos cheveux, ça avait pas de sens, on se battait avec ça. » Vraiment, ce qui a fait que je me suis assise puis que j'ai fait l'action de l'écrire puis de le coucher sur papier, c'est venu de des discussions avec ma filleule puis mes nièces, en fait, là, qui entraient dans la phase préadolescence-adolescence. Puis que là, je les entendais parler, puis je leur sortais certaines de ces anecdotes-là, puis je me disais, ah, tu sais, ils étaient comme, ah oui, OK, fait que toi aussi, t'as vécu ce genre de choses-là. Puis je me disais, ben là, si ça peut être pertinent pour elles, ça pourrait être pertinent plus largement pour plus de personnes. Fait que là, je me disais, ah, je pense que j'ai envie de le coucher sur papier, puis je verrai ce que ça va donner par la suite, là. Mais j'ai d'abord dressé une liste de toutes les parties du corps que je n'aimais pas à l'adolescence. Puis après ça, ben là, je les ai divisées comme en genre de petits chapitres, puis je partais.
Ça fait combien de chapitres, tout ça?
Et la liste est longue!
Je vous dirais peut-être une 10-12e. En fait, les deux derniers chapitres étant plus des réflexions que vraiment là, autour du corps en tant que tel. Mais donc, l'objectif avec ce livre-là, c'était vraiment de parler comme un peu à tes nièces, puis de renforcer le positivisme autour de... En fait, de démontrer que toi aussi, tu avais déjà vécu ça quand t'étais à leur âge.
Exactement. Puis même si j'avais en tête une clientèle un peu plus jeune, en fait, là, préadolescente, adolescente, ce discours-là est tellement universel que surtout là, depuis que je l'ai publié, je reçois des commentaires constamment de gens de tous les âges qui me disent, beaucoup des femmes, mais aussi des garçons qui font « Ah, moi, j'étais grand, j'avais des boutons, c'est pas exclusif aux femmes de se trouver laide quand on est jeune. » Fait que, tu sais, ça, je me rends compte que finalement, malgré, même il y a beaucoup de référents culturels que je pensais que je me disais peut-être que ça va moins bien traverser les différents groupes d'âge. Mm-hmm. Finalement, personne ne me parle de ça, mais simplement du sujet qui est partagé par la plupart des gens.
Donc, tout le monde se reconnaît pas mal là-dedans, autant hommes que femmes.
Exact.
Puis, dans ton livre, justement, là, tu utilises beaucoup de références, mais c'est beaucoup d'humour et d'autodérision que tu utilises. Comment est-ce que ce ton-là s'est imposé dans ton écriture?
Il y a plusieurs choses que je lisais en lien avec le corps, l'acceptation de soi, qui étaient vraiment comme des... c'était très lourd, puis c'est bien correct, là, je veux dire, ça dépend de chaque personne aussi, mais tu sais, moi, c'était pas nécessairement un récit d'intimidation, puis c'était des souffrances quand même, parce qu'à ce moment-là, c'était difficile pour moi, parce que je me trouvais réellement très laide, mais en même temps, tu sais, je l'ai écrit avec le recul de l'âge que j'ai actuellement, fait que c'est certain que si ça avait été juste d'écrire pour me plaindre ou comme pour faire pitié, je me suis dit « Ah non, ça vaut pas la peine d'écrire ça. » On dirait que ça correspondait pas vraiment à mon style ou juste à mes valeurs.
Ça permet d'avoir un pas de recul aussi, parce que ça aurait pu tomber dans quelque chose de plus sombre. C'est un peu comme une première peine d'amour. C'est celle qui fait le plus mal, mais quand on en parle 10 ou 15 ans plus tard et qu'on en a vécu une ou deux autres, on dédramatise.
Exactement. Puis en même temps, c'était de trouver l'équilibre entre « je veux pas avoir l'air de ridiculiser ces souffrances-là puis de faire comme « oh, c'est tellement niaiseux, vous allez vieillir, vous allez trouver ça absolument absurde. »
Elles sont véritables, qu'elles créent de l'anxiété.
Exactement. Puis il y en a qui perdurent vraiment longtemps. Il y a plein de gens qui sont adultes puis il y a encore des petites douleurs de « ah, ça, j'ai pas encore accepté ça » ou « ça, je me regarde, je me trouve encore comme ci, comme ça. » Tu sais, c'était vraiment de trouver la façon de parler de moi. Tu sais, je suis pas porte-parole des complexes du corps, mais de voir moi, c'est comme ça que ça a évolué. Moi, je choisis d'en rire, mais comme je viens pas du tout diminuer cette souffrance-là.
Non, mais c'est très bien amené. Je me suis retrouvée à rire à plusieurs reprises. Là. Justement, je me reconnaissais beaucoup. Je pense que peut-être des années 90, tu fais beaucoup de référents culturels aussi.
Oui.
La revue Cool, on l'a tous lu. On s'est tous comparés. Donc, non, c'était très humoristique. Puis, en fait, on sent énormément que, justement, cette pression-là, elle vient chez les jeunes. Mais est-ce qu'elle est créée par le regard extérieur des autres ou c'est nous-mêmes qui se l'inflige?
Oui, ça me fait beaucoup réfléchir parce que je reçois beaucoup de témoignages aussi depuis que j'écris, puis j'aime ça parce que ça continue de faire mijoter cette réflexion-là pour moi qui n'est pas complète parce que, d'ailleurs, ce que je parle dans les deux derniers chapitres là, auxquels tu fais référence, c'est que j'ai pas comme de réponse, j'ai pas de recette miracle pour l'acceptation, puis c'est pas du tout là que je voulais m'en aller. C'est plus comme une façon d'ouvrir la discussion puis de dire, c'est surtout sur les réseaux, c'est très polarisant, puis surtout une femme qui fait « Oh, on parle-tu trop du corps? On se montre-tu trop? » Tu sais, ça peut être tagué comme antiféministe, puis là, ça, c'est vraiment, je trouve que c'est glissant comme terrain, puis des fois, je me dis, j'ai envie de parler de ça, mais j'ai tellement peur comme de mal, tu sais, de mal exprimer ma pensée, puis de que ça soit un petit peu maladroit. Fait que c'était vraiment, peu importe la façon dont on choisit de l'exprimer, c'était ouvrir la discussion. Pas nécessairement le débat, mais parce que c'est toujours ça, j'ai l'impression, là, sur les réseaux sociaux, c'est
oui,
juste
c'est
une discussion.
Exact. Rassembler autour d'une discussion plutôt que polariser par la discussion.
Exactement. De se donner comme ce droit-là de faire « Ah, je me questionne, qu'est-ce que je pense de ça? Qu'est-ce que... J'ai un malaise, peut-être que je l'exprime pas bien, mais tu sais, je le lance au balotage, puis on va en discuter ensemble, puis c'est ça que j'ai... Excuse-moi, après j'ai perdu le début de ta question.
Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça, donc, parce qu'en fait, il y a une anecdote où tu parles des lunettes. Et je voyais que tu disais, mais en fait, si je vais dire maintenant au professeur que j'arrive pas à voir au tableau, j'ai avoir de l'air niaiseuse. Puis là, c'est cette question-là. Est-ce que c'est moi qui m'impose ça parce que je veux pas avoir de lunettes, puis ben, j'ai peur d'apparaître niaiseuse, ou c'est vraiment l'adulte qui arriverait et disait, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, pourquoi tu l'as pas dit avant?
Oui, effectivement. C'est sûr que là, moi, je parle que j'étais vraiment très timide sur ce genre de questions-là. Fait que moi, c'est sûr que entre moi et quelqu'un d'autre, c'est toujours moi qui étais maladroite, puis je m'infligeais de tous les maux du monde, puis je me sentais pas capable de m'exprimer. Mais en même temps, des fois, je me dis, oui, on a un travail. C'est sûr qu'on a tous un travail personnel à faire là-dessus, mais il y a beaucoup, beaucoup, quand je dissèque le livre, puis je me questionne vraiment sur chacune des parties, les commentaires qui ont été faits aussi par les gens de mon entourage, que ce soit, tu sais, je parle d'une enseignante, je parle d'une amie à l'école, je parle d'un membre de ma famille, tu sais, des petites affaires qui sont arrivées vraiment rapidement dans l'enfance. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement la pression sociale ou les réseaux sociaux, là, tu sais, des fois, c'est juste un petit commentaire d'une grand-mère, là, qui fait comme un peu mal, puis là, tu te dis... Tu sais, oui, là, il y a énormément de pression qui est mise sur la femme et tout, puis c'est très exacerbé dans la société, mais en même temps, je me dis, il y a quand même une petite attention à faire, nous, un petit acte de bienveillance des gens autour de nous aussi qui commencent bien plus tôt dans le foyer familial que vraiment comme dans sur les réseaux ou dans le plus largement là, dans la sphère sociale.
Oui, tout à fait. Puis, justement, ton livre se termine sur un rejet de cette pression-là vis-à-vis la pression qu'on met au corps. Donc, désolé l'anglicisme, mais « mind, body and soul », toi, le body, t'es comme « non, j'embarque pas là-dedans, j'en ai pas envie ». Puis là, comme tu as dit, t'avais beaucoup de retours de tes lecteurs, donc t'es pas seule.
Non, effectivement. Puis ça aussi, c'est que c'est très varié. Il y a des gens qui parlent un petit peu plus là, de... body neutrality, là, j'arrête pas,
oui.
Je vais juste parler en anglais, là, mais puis ça aussi, je trouvais ça intéressant parce que c'est de juste venir dire, ben moi j'ai un corps, puis tu sais, that's it, là, comme
il y a des jours où je me trouve belle, il y a des jours où je me trouve moins belle, puis c'est pas grave, tu sais, c'est juste
exactement.
De reconnaître comment je me sens, puis on passe à d'autres choses.
Exact. Puis tu sais, c'est plus de le voir comme ça, plutôt d'essayer de rentrer aux gens justement, non, essaye de t'aimer, c'est important de t'aimer, c'est important de t'aimer, mais d'un coup que ça c'est dit, là, toi t'es chez vous, tu te regardes dans le miroir, tu t'aimes pas, bon ok, tu peux faire une thérapie, là, il y a une couple de choses que tu peux faire, mais à un moment donné, t'arrives à, ben ça marche encore pas, tu sais, fait que là t'as l'impression en plus que qu'il faut que tu performes ce sentiment-là, là, puis c'est comme, ah non, moi aussi, là, je me suis acceptée, là, regardez comme je m'accepte bien, tu sais. Fait que là, tu tombes dans un autre extrême qui n'est pas nécessairement plus intéressant. Fait que je pense que ça dépend vraiment des gens. C'est pour ça que moi, je dis, je reviens au fait que j'ai pas de recette, j'ai pas de formule. Là, je suis comme ça dépend de toutes les personnes. Puis juste de faire justement là, j'ai un corps aujourd'hui, en date d'aujourd'hui ou comme en date du moment où j'ai fini d'écrire le livre, je me disais là, je suis là, je me sens bien avec moi. Mais il n'y a rien qui me dit que dans 2-3 ans, où il va pas arriver, je vais pas avoir un commentaire quelconque ou quelque chose qui va m'arriver, puis que ça va me faire revivre autre chose. Mais tu sais, je l'accepte ça aussi là. Tu sais, c'est pas, je pense pas que ça soit pour la vie nécessairement, mais c'est juste de pas accorder autant d'importance à ça. Là.
Non, tout à fait. Et puis, ça m'amène à réfléchir justement. Est-ce que, bon, oui, il y a les réseaux sociaux où on voit toujours les corps, mais est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il peut y avoir du positif aussi là-dedans? Dans le sens qu'il y en a peut-être des influenceurs qui arrivent puis qui disent juste, tu sais, qui viennent véhiculer ces mêmes messages-là aussi.
Ah, tout à fait. Oui, oui, il y en a de plus en plus aussi. Puis c'est difficile de percer ça justement avec nos algorithmes parce qu'il suffit que j'ai regardé quelque chose en me disant « Mon Dieu, que ça n'a pas de bon sens », puis je l'ai regardé juste un peu trop longtemps, puis là, mon algorithme a décidé que c'était ça que je voulais voir pour les 10 prochaines années. Fait que oui, j'en entends souvent parler, puis j'essaie. Puis de toute façon, je suis pas si souvent là-dessus, mais comme j'ai l'impression que, comme tout le monde, pour mettre le cerveau à off, on a tendance... C'est la solution facile, là. Mais je pense qu'il faut... c'est pour ça que je pense pas qu'il faut bannir les réseaux sociaux, comme le discours doit peut pas être aussi polarisé que ça. Ça prend de la nuance, puis il faut être capable d'éduquer les gens, puis de leur dire oui, il y a d'autres choses, puis voici comment ça fonctionne, puis c'est fait d'abord et avant tout pour te vendre des choses. Fait comme d'un coup que tu comprends ces mécanismes-là, je pense que tu peux trouver effectivement des bonnes choses, mais faut que tu aies l'éducation numérique derrière ça.
Non, c'est ça. Je peux comprendre que quand t'es jeune, t'as pas ce recul-là, puis t'as pas cette possibilité-là de faire le changement par toi-même nécessairement. Tu veux juste te laisser emporter dans tout ça. Ariane, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu planches déjà sur un nouveau projet?
Oui, ben là j'ai plusieurs projets, mais actuellement ben je suis à quelques semaines d'accoucher.
Non, ça c'est le plus gros projet.
Oui, c'est ça. Fait que je te dirais que pour l'instant mes projets littéraires vont être un petit peu sur la glace.
La maternité n'influence personne ou?
Ça serait une autre belle déclinaison, mais je peux pas, je suis pas rendue là encore. Là, je le dirai s'il y a du bon matériel une fois que ça sera passé.
Parfait. Mais Ariane Michaud, merci énormément. Donc Ma laideur n'influence personne, paru chez l'Instant même.
Merci beaucoup.
Merci. Dans un instant, Olivier Bilodeau vient nous parler de deux films atypiques, La Bête et Human. Bilodeau.
Bonsoir.
Attends, je baisse ton micro parce que toi, t'as une voix.
Je m'excuse.
T'as une voix d'ogre. t'as déambulé sur la 3e avenue pour venir nous rejoindre.
Oui.
Pimpant. Pour nous parler de deux films atypiques, je le disais tantôt.
C'est un adjectif qu'on pourrait utiliser. Oui, oui, oui.
Olivier, on commence par Human ou La Bête?
On va commencer par Human.
De Caitlin Cronenberg. Et son nom de famille, évidemment, fait en sorte qu'elle est la fille de David et la sœur de Brandon, qui eux, bon, ont déjà, ben, David a une longue filmographie.
Oui, 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 oui.
Brandon en a quoi? Deux ou trois?
Trois,
maintenant.
Oui.
J'aime bien ce qu'il fait, d'ailleurs.
Brandon. Ah, j'adore ce qu'il fait.
Effectivement. Et Caitlin arrive avec Human.
Oui.
Qui prend l'affiche demain.
On aurait dit Human, je pense.
Ah, merci.
Ouais, c'est ça. C'est pas Human, c'est avec
non,
un
y a
E,
un
là.
E à la
ouais,
fin.
C'est comme l'humain, human. Être humain, mais en anglais. Pas être un être humain, mais avoir le sentiment, comprenez ce que je veux dire?
Être humain.
Ouais, avoir un sentiment
d'humanité.
Humain. D'humanité. Voilà, enfin, d'humanité, c'est ça. Donc, la demoiselle Cronenberg, Caitlin de son prénom, comme tu as bien, si bien dit, elle arrive avec beaucoup d'attentes, hein, quand tu portes un nom, Fait qu'on s'attend beaucoup à avoir...
C'est pas une comédie romantique
non,
qu'elle a réalisée.
Non, non, non.
C'est pas... Elle ne calque pas son père.
Non.
Mais on est dans un registre quand même de marginalité.
C'est ça, exactement. C'est beaucoup moins épeurant ou les thèmes... Elle calque pas son père, mais il y a quand même quelques scènes où, effrayantes ou du moins gore, déplaisantes à voir. Donc, on est dans un futur proche... la Terre est rendue inhabitable, presque inhabitable, dans le sens que on peut plus sortir à l'extérieur sans une ombrelle, se protéger. Et c'est un désastre écologique, hein, on s'en va vers là, mais...
Et une surpopulation.
Surtout une surpopulation. Et il a été décidé par les pouvoirs mondiaux que chaque pays allait décroître sa population de 20%. Alors, on est dans un pays qu'on croit être... On est en Amérique du Nord, c'est pas nommé. C'est-tu le Canada, c'est-tu les États-Unis, c'est-tu une nouvelle entité géopolitique? On est en Amérique du Nord, on se reconnaît par l'architecture et les gens parlent anglais. Et ce coin de la planète a décidé de faire un programme où, sur une base volontaire...
D'euthanasie.
Les gens pourraient se proposer pour l'euthanasie et leurs proches allaient être dédommagés de 250 000 $. Alors, il y a certaines personnes plus pauvres de la société qui se prévaut de ce droit-là, bien évidemment, pour laisser de l'argent à leur famille. Mais là, on est surtout dans l'histoire autour d'une famille. On comprend que le monsieur, c'est le père, est très riche. C'est un ancien annonceur, une personnalité publique de la télé. Il faisait les nouvelles.
Peter Gallagher, voilà. Vu dans Sex, Mensonges et Vidéo à ses débuts.
Voilà, exactement. C'est un film canadien. Hein? Caitlin, comme son père et son frère, est canadienne. Donc, c'est un film canadien avec Jay Baruchel, qui joue un des enfants.
Parce que Gallagher, dans son rôle de père, s'est remarié. Il a une conjointe.
Oui, il a une conjointe.
Il a quoi? 4 enfants.
4 enfants, dont un adopté. C'est très important dans l'histoire. Et là, il fait venir tous ses enfants pour un souper pour leur annoncer qu'il avait souscrit à ce programme d'euthanasie volontaire, donc qu'il allait mourir, et il voulait leur annoncer. Et là, bien évidemment, les enfants sont pas d'accord parce qu'ils ont pas vraiment besoin du 250 000 $. Ils comprennent pas trop pourquoi que le père et sa nouvelle compagne veulent faire ça. Ils en ont pas vraiment de besoin. Donc... Il accepte pas
Il y a des tensions.
La décision.
Il y a des tensions, mais surtout, il y a un coup d'éclat.
Oui, il y a un coup d'éclat. Ça cogne à la porte. Et ce que les enfants savaient pas, c'est que ça allait se faire là. L'euthanasie allait se faire là. Et comme la compagnie qui fait l'euthanasie arrive, ils trouvent plus la femme. Donc, la belle-mère a disparu.
Elle a changé d'idée. Et dans le contrat, c'est qu'il y a deux personnes qui doivent être euthanasiées.
Ils partent avec deux corps.
Oh non.
Fait que le père meurt. Il se fait euthanasier. Et là, la compagnie dit, ben là, nous, on doit partir avec deux corps, là. Fait que, trouvez-moi un deuxième cadavre. J'apprends un deuxième cadavre. Fait qu'il dit, je vais être smart avec vous. Je suis pas obligé que ça soit moi qui l'euthanasie, mais donnez-moi un deuxième cadavre. Et là, c'est vraiment le côté, le titre human, le côté humain qui embarque. À savoir, qui des quatre va se sacrifier
Ou va être sacrifié.
Et bien évidemment, vous voyez où ça s'en va. C'est comme Succession, mais avec un bad trip. C'est ça.
C'est un film à petit budget, on va le dire. C'est presque un huis clos entre les personnages
exactement.
Dont on vient de parler.
On
ne sort pas
maison.
Réellement
non,
de la maison.
Non, c'est ça, on est dans la maison tout le long.
As-tu embarqué?
J'ai embarqué. J'en aurais pris plus, par contre.
Dans quel sens?
Dans le sens que je trouvais qu'on était beaucoup dans les clichés, bien évidemment.
Les personnages sont un peu caricaturaux.
Oui, exactement.
Jay Baruchel, je suis pas capable.
Ah non?
C'est une caricature ambulante.
En plus, c'est pas un bon casting pour lui. Il joue l'espèce de scientifique, alors que Jay Baruchel, on le voit plutôt comme adolescent.
Oui, cabotin.
Puis je trouve que ça tombe dans le cliché, là. Le frère adopté qui avait des problèmes de drogue, puis là, bien évidemment, les trois frères naturels, décident que peut-être ça devrait être lui. Tu sais, on tombe un peu dans le cliché.
On partait quand même...
C'est pas un grand film.
Non, on partait avec une belle idée de départ.
Effectivement, la prémisse est excellente.
Qui s'essouffle un peu en cours de route, ça y manque un petit tonus scénaristique peut-être pour nous amener ailleurs.
Effectivement, puis c'est un très petit budget, il y a des sous de Téléfilm Canada là-dedans, donc c'est pas... Tu sais, les comédiens se débrouillent bien, mais c'est un petit film de mardi soir. Là. C'est ouais. plate à dire, là, mais c'est un film de mardi soir. Puis même le mardi soir, ça se peut que j'en choisisse un autre.
Donc, faut pas avoir de grandes attentes.
Non, faut pas avoir de grandes
attentes. Faut se dire que si on aime des films d'anticipation, justement, puis des films de genre, ben, on peut y prendre un certain plaisir.
On peut y prendre un certain... C'est pas un ratage.
Non,
mais,
non, non.
Mais c'est rien d'exceptionnel. Que c'est pas un film qui m'a habité, auquel j'ai repensé. Mais j'ai passé une bonne heure et demie.
Oui, c'est ça. C'est pas un film qui est très long.
Non.
Au contraire de La Bête.
Oh mon Dieu, un autre film d'anticipation. Ça, j'ai vraiment fait le programme cette semaine.
Ben oui, beau doublé. La Bête qui est déjà à l'affiche présentement.
Déjà à l'affiche. Bertrand Bonello. Bertrand Bonello, vous devez le connaître.
C'est Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'était son chef-d'œuvre.
La Polonaise aussi. Là.
Oui. Ouais, il avait tourné au Québec d'ailleurs, ou en partie en coproduction, quelque chose d'organique à ses tout débuts.
OK.
Bonello voulait tourner son nouveau long-métrage, La Bête, avec Gaspard Ulliel,
qui est décédé.
Et qui a été remplacé par George
Mackay
qui jouait dans 1917, le comédien britannique George Mackay
que 1917, puis dans Captain Fantastic aussi, je pense qu'il fait un des enfants, ouais, à Viggo Mortensen.
Ah ben voilà, voilà. T'as pas de mémoire. Il partage l'écran avec Léa Seydoux.
Oui, voilà. C'est Léa Seydoux. Hein. On suit le personnage de Léa Seydoux qui vit dans un futur. On est encore dans un futur proche en 2044.
Ouais, mais c'est plus compliqué que ça.
Ouah, c'est compliqué, tu dis. C'est,
moi, j'ai presque rien compris au film. Je préférais que t'en parles justement plutôt que je fasse un solo. Et on est en 1910. Corrige-moi. 1910, 2014, 2044.
Voilà.
Donc, on se promène en trois époques.
C'est ça.
Avec un couple. Sont vus à travers ces trois époques. Ben, un couple.
Un couple, non. Ben, non, elle, non, on suit elle.
Un homme et une femme.
Oui, un homme. Elle, et elle rencontre lui dans ces deux époques antérieures. Parce que le film, ça part en 1910, mais on comprend qu'on est en 2044, puis qu'il y a une nouvelle intelligence artificielle qui régit le monde. Donc, les gens n'ont pas grand-chose à faire parce que l'intelligence artificielle s'occupe de tout. Et elle a un boulot plate de s'occuper du circuit de refroidissement de cette intelligence artificielle. Et elle aimerait avoir un meilleur boulot, mais pour ce faire, elle doit se débarrasser de ses sentiments. Semblerait-il qu'elle ait trop de sentiments.
Le film porte là-dessus. C'est l'abandon et l'absence de sentiments entre deux personnes qui pourraient vivre une histoire d'amour extraordinaire.
Mais qui n'ont pas le droit ou qui peuvent pas. Donc, elle va rentrer dans un... Elle prend une espèce de bain, puis là, il l'amène... Le bain va l'amener dans des vies antérieures. Donc, on sait de là, le 1910 et le 2014. Et là, elle rencontre le personnage masculin joué par George Mackay. Et là, c'est ça qu'on comprend pas trop. Elle est supposée de s'expier de ses sentiments en 2044, mais elle retourne dans le passé et elle en vit plein.
Quelques petites notes rapides avant de me dire ce que t'en parles. La directrice photo, c'est José Déhay. On parlait de coproduction entre la France et le Québec tantôt. Xavier Dolan coproduit le film, d'ailleurs. C'est l'adaptation d'un livre d'Henry James qui avait été adapté l'année dernière avec La Bête dans la jungle du côté de la France avec Anaïs de Moustier.
Exactement.
Le livre est adapté deux fois en moins d'un an.
Puis Béatrice. Mais c'est une adaptation au livre, bien sûr.
Absolument. Cela dit, si on peut faire un rapprochement avec un film qui a marqué les esprits, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais. Parce qu'on est dans une histoire d'amour qui ne se concrétise pas.
Non.
Sauf qu'ici, en 2h30, c'est longtemps, puis je me sentais idiot en regardant le film. C'est comme si je comprenais pas tout.
Il y a pas grand. Sens-toi pas idiot. Je pense qu'ils veulent pas qu'on comprenne.
Pourquoi il y a plein de critiques qui crient au chef-d'œuvre depuis que le film est sorti?
Ben, c'est Bonello. Moi, je pense qu'à un moment donné, dans la vie d'un artiste, on pourrait en faire une autre discussion. À un moment donné, je pense que le nom devient plus fort que l'œuvre, puis les gens peuvent se dire. Cette personne-là a tellement produit des grandes œuvres avant, cette œuvre-là doit être nécessairement bonne. Donc, même si je la comprends pas, elle doit être écœurante. Je pense que c'est beaucoup le cas à Lynch.
Alice, est-ce que ça existe en littérature, ça?
Ah oui, absolument.
Ouais.
Mais on dirait que ça me rappelle deux choses. Ben, en fait, déjà le concept des vies antérieures.
Ouais.
Donc, juste le fait de revenir là-dedans et que, dans le fond, ce qu'on vit, on l'a déjà vécu. Donc, ce serait comme un éternel recommencement, mais là, il faut qu'elle s'en sépare. Ça me fait beaucoup penser à Severed aussi.
Oui.
Où, quand on monte dans l'ascenseur, ben là, on doit se dissocier de la partie qui vit les autres choses à l'extérieur. On dirait que c'est dans un monde aseptisé un peu ça, où on doit se détacher complètement de tout pour être capable de bien fonctionner.
C'est bien dit.
C'est vrai. Mais la chose, c'est que où moi, on me perd dans le film, c'est qu'elle y vit à fond ses émotions. Il n'y a pas tant de retenue que ça. quand elle est dans le passé, à vivre avec l'homme, tu sais.
Est-ce que c'est parce qu'elle vit dans le passé qu'elle est capable
De les expier ou, en 2044? Ouais. Bonne question. En tout cas, c'est pas répondu. Je pense que c'est un film qui veut nous laisser beaucoup en suspens, ne veut pas nous donner les réponses. Mm-hmm. Mais le problème du film aussi, on vient de le dire, qui est tiré d'un, c'est un roman court, là. C'est un novella, une novella. Donc, je pense que ça prend moins de temps à lire le livre que de regarder le film. Donc, déjà là, on se perd beaucoup. Puis c'est que du bavardage, là. Il n'y a pas vraiment d'action dans le film. Il y a des très belles scènes, ceci dit, hein. Bonello,
il s'est filmé. Puis c'est très filmé.
Moi, j'ai appris qu'il y a eu une inondation à Paris en 1910. Alors, j'ai eu plus de plaisir à lire sur l'inondation de Paris de 1910 après le film et il y a des magnifiques images pendant l'inondation. Il y a une scène sous-marine que c'est tout à fait magnifique, mais on s'y perd, et ces 2h30 qui en paraît 6, c'est très, très ardu.
Pour les curieux et les fanatiques de Bonello.
Oui, ou les gens qui aiment le cinéma où on doit se casser la tête, essayer de comprendre, c'est pour vous.
On se retrouve quand, nous, Olivier? C'est-tu l'ouragan Fuck You Tabarnak?
C'est l'ouragan Fuck You Tabarnak pour la dernière de l'année.
Beau titre de film québécois,
ouais.
N'est-ce pas, Annie?
Oui.
Oui, on l'a réduit à FYT pour les oreilles sensibles.
Pour le poster.
Ouais, c'est ça. Donc, on se retrouve dans 2-3 semaines pour un film québécois qui sera peut-être moins intellectuel.
J'allais déjà vu parce que j'ai eu la chance de le voir dans un festival. C'est beaucoup moins intellectuel, mais c'est très humain. Alors, c'est le mélange des deux.
Avec un personnage assez jeune, filmé. Deuxième réalisation, deuxième long métrage, devrais-je dire, de Arabe.
Une adaptation de son court métrage du même titre.
Fait en long, exactement. Voilà. Olivier Bilodeau, merci beaucoup. À vous. On se retrouve justement dans quelques semaines. Dans un instant, Annie Saint-Pierre va y aller de sa chronique livre.
Ici Louis Gagné, propriétaire de Alimentex, une boutique spécialisée dans les produits naturels et les aliments biologiques. Je suis honoré d'être le porte-parole d'affaires du Radioton 2024 de CKRL. Cet événement revêt une importance capitale pour notre communauté. Je vous invite chaleureusement à manifester votre générosité envers cette station qui est à la fois un pilier culturel et communautaire essentiel de Québec. Je compte sur votre engagement et votre générosité. Merci.
Dans le cadre du 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL 89.1 est fier de collaborer à la présentation du concert Community Ensemble with Harry Brown de l'ensemble Natural Information Society, mené par Joshua Abrams, le vendredi 17 mai 2024, à 22h. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez lefimav.qc.ca.
Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz et de la bossa nova avec Eliane Elias et Mark Johnson. When I look in your eyes, I see the two of us. Mariant ses racines brésiliennes, sa voix et son jeu de piano dans un style unique, la talentueuse artiste vient partager son répertoire en compagnie du respecté contrebassiste. Ne ratez pas cette performance en duo attendue pour les deux artistes récipiendaires de prix Grammy. Le 4 mai, soyez aux premières loges pour le jazz brésilien d'Eliane Elias et de Mark Johnson au Palais Montcalm.
Place au théâtre à l'Anglicane. Le 3 mai, voyez la pièce Le Nœud, traitant d'un sujet bouleversant et abordé avec finesse.
J'ai fixé le rendez-vous avec Carole, je pense. Je l'ai appelée, vendredi après-midi.
À quel sujet?
Au sujet de mon fils.
C'est qui votre fils?
Grégory.
Le 16 mai, soyez émus par Maurice, une pièce abordant l'aphasie et teintée d'humour.
Voyage, là, loin. Bye, tout le monde. Bye.
Réservez vos places dès maintenant à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca.
Ici Pierre Dolbecq qui vous invite à la deuxième édition du Diapason Fest qui aura lieu le 9 mai prochain au Quartier de Lune. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Amplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants. Juillet, Uriel, Hidden Bliss et Pretty Smile. Joignez-vous à nous pour encourager notre scène locale émergente. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 25$.
L'émission Fahrenheit 89.1 vous est présentée par le Cinéma Le Clap, diffuseur d'œuvres cinématographiques internationales et québécois depuis 35 ans.
Joli thème, presque annonciateur de temps chaud.
Oui, on se croirait au printemps, c'est le printemps.
C'est ton thème, Annie. Bon, voilà. Annie, Saint-Pierre, rebonsoir. Grosse émission après l'entrevue de tantôt.
C'est correct, ça, on est rendu là.
Et du fait que tu t'es mêlé un peu de notre conversation avec Olivier, qui n'en était pas à ses coups de cœur cinématographiques.
Non, définitivement.
Est-ce que ce sera différent avec ta chronique livre?
Oui, j'ai adoré mes deux livres.
Allons-y, tu nous présentes le premier.
Oui, donc j'ai commencé avec Roman sans rien d'Antoine Charbonneau-Demers. Antoine Charbonneau-Demers s'est fait remarquer dès sa première parution en 2016 avec Coco, pour lequel il a gagné le prix Robert Clich. Et donc, il nous revient avec Roman sans rien, un roman sans rien. Donc, c'est le défi qu'il a reçu de la part d'un de ses d'un garçon à qui il souhaitait plaire, où il s'était fait dire qu'il y avait trop de frioritures, on reconnaissait trop la part de réel et d'irréel dans ce qu'il écrivait. Et donc, il s'est fait mettre au défi, mais tu devrais écrire quelque chose sans rien.
Épuré.
Exactement. Ce qu'il a fait, donc, on commence avec un premier livre dans lequel c'est vraiment un carnet de voyage. Donc, on va suivre Antoine dans ses aventures en Europe, où il va rencontrer différentes personnes et c'est très épuré, justement. Il n'y a rien, il n'y a pas de frioriture, c'est vraiment très cru. Et dans la deuxième partie, par contre, le deuxième livre, là, c'est...
Là, attends, t'es en train de me perdre. Dans son livre, Le roman sans rien... On a le droit à deux livres.
On a le droit à deux livres.
Ou deux récits.
Exactement.
Voilà.
Donc, mais en fait, même, je dirais, là, dès le début, il y a un petit prologue où c'est une mise en place, on dirait un soap américain. Donc, on arrive, c'est un grand manoir, et on sent que les personnages sont très dramatiques. Ça dure juste deux pages. Et là, on arrive dans le premier livre où... Justement, là, donc, il fait vraiment le récit de « j'ai rencontré ce garçon-là, je me suis fait mettre au défi d'écrire sans rien, j'ai des voyages qui s'en viennent, donc il va faire ses voyages. » Et justement, il n'y a pas de frioriture, on est dans du détaché, du factuel, même si c'est de la narration.
Quelque chose
jeu.
De clinique.
Exactement, mais ça reste quand même que c'est lui qui vit toutes ces choses-là.
Tout à fait. Et dans le deuxième récit, on est où?
Ben,
en voyage encore?
Non. Donc on est revenu. Dans le deuxième livre, on est au Québec. Ça commence au Québec, mais on rencontre d'autres personnages. Et là, ce n'est plus Antoine Charbonneau-Demers, c'est Paris du Love. Donc, c'est un alter ego qui s'est créé et qui lui aussi est écrivain. Et il va vivre toutes sortes d'aventures plus rocambolesques les unes que les autres.
Il a le nom pour.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment une incarnation d'Antoine, si on veut. Puis, donc, ce livre-là se veut une réflexion sur la limite entre l'autofiction et la fiction. Puis, justement, moi, je suis arrivée sans attente, sans a priori. J'ai lu la quatrième de couverture et c'était un mélange de n'importe quoi. Ça ne menait pas que je dirais... pas que ça menait nulle part, mais j'en savais absolument rien sur ce que j'allais trouver à l'intérieur. Donc, je suis arrivée sans attente. Et la deuxième partie, c'est aller dans tous les sens. Donc, et c'est vraiment des personnages fictifs, mais en même temps, on se pose la question à quel point ils sont fictifs. Parce qu'on reconnaît une partie d'humanité chez ces personnages-là, mais qu'on reconnaît aussi dans la première partie. Donc, cette question de est-ce que... Même si c'est, par exemple, une autobiographie, est-ce que le lecteur ne peut pas s'identifier à la personne principale, au personnage principal, en se disant « ben c'est mon histoire ». Et en la fois aussi, est-ce que je ne peux pas m'identifier à des personnages fictifs parce que je partage une humanité avec eux? Donc, la limite entre les personnages qui sont fictifs, non fictifs, est vraiment très floue. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est que je me posais des questions, mais voyons, tout ce qui se passe, ça se passe-tu pour de vrai? Parce que dans la première partie, on est très factuel, mais dans la deuxième, on ne l'est pas du tout. Donc, c'est vraiment romancé. On va avoir des beaux précédés d'écriture. Il y a des descriptions qui sont beaucoup plus parlantes que dans la première section. Donc, en tout cas, vraiment, là, on est un peu perdu, mais c'est être perdu. Moi, j'aurais D'ailleurs, justement, là, par rapport à ce que Olivier a dit tout à l'heure, moi, j'aurais écouté La Bête parce que je suis perdue. Donc, j'ai adoré ce livre-là parce
t'as
que j'étais...
T'as adoré te perdre.
Exactement. Puis en même temps, justement, c'est dans la partie où c'est sans rien. Aussi, les faits sont amenés, sont très crus et on a vraiment un visage... ça nous montre un certain visage de la communauté LGBT que moi, je connaissais pas. Donc, Antoine Charbonneau-Demers, c'est un auteur gay et donc il écrit sur sa réalité d'homme sexuel. D'homme homosexuel, pardon. Mais justement, donc c'est, on sent un peu voyeur, mais en même temps, c'est bien amené. C'est pas, c'est la première fois où je lisais une écriture qui n'était pas militante nécessairement par rapport à la communauté LGBT. Donc vraiment, on n'est pas dans le militantisme, on est juste dans décrire les faits. Un chat est un chat. Voici comment certaines personnes pensent, comment d'autres pensent. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là qui n'était pas romancé ou qui n'était pas qu'il n'y avait pas de sensationnalisme non plus. Donc, un roman sans rien, ça parle de ça et de bien d'autres choses.
Est-ce qu'on est dans une sexualité qui est affirmée puis qui est même décrite?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, mais sans tomber dans les excès non plus. Donc, Antoine Charbonneau-Demers a un passé, on va dire, pas sulfureux, mais il s'est affiché sur certains réseaux. Puis donc, ça, c'était un avant. Donc là, on est dans un roman sans rien. C'est quelque chose qui est un petit peu plus détaché, là, qui est un petit peu plus personnel, où peut-être qu'il s'est mis une certaine limite à ne pas dépasser, mais sans doute...
Et tu rappelais en début de chronique que c'est le gagnant du prix Robert Clich.
Ah, mais ça, c'était de 2016, donc okay, avec
c'est,
son
c'est
premier livre.
C'est gagnant du prix.
Oui, c'est
donc,
ça. C'est son premier. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est son premier roman, Le Coco, qui avait gagné le prix Robert Clich
donc,
en 2016.
Donc, il poursuit de belle façon.
Oui, tout à fait.
Toujours chez VLB, parce que Robert Clich est toujours publié chez VLB, les gagnants sont.
Parfait.
Oui, c'est toujours donc, associé. Bon, c'est associé à une maison d'édition.
Donc, voilà. Donc,
okay. Antoine Charbonneau-Demers.
Avec Roman sans rien.
Et l'autre roman dont tu vas nous parler, c'est aussi le roman. Ça commence par...
C'est le roman.
Le titre est presque similaire.
Exactement. Donc, c'est le roman d'Isoline.
Isoline, c'est un prénom, ça?
Oui, tout à fait. Donc, d'ailleurs, j'avais droit à un petit cahier dans lequel David Turgeon expliquait que ça vient d'un film, ce prénom-là. Mm-hmm. Et donc, il l'a volé à... Pierre était, c'était dans le film Yo-Yo, donc c'est dans l'univers du cirque et tout ça, donc il lui a volé le prénom de Isolina qui est devenue
David Turgeon qui a un passé aussi du côté de la bande dessinée, mais qui a écrit plusieurs romans, oui. Et ce nouveau roman, le roman d'Isoline, est publié au Cartanier.
Oui, exactement, donc c'est son sixième roman au Cartanier, et donc c'est un auteur là, qui est reconnu pour ses mises en abîme, ses digressions et sa façon particulière de manier la langue française, et on retrouve tout ça dans le roman d'Isoline. Moi, je ne le connaissais pas, David Turgeon. Donc, ça a été une très belle surprise. Et aussi, là, sur la façon... les constructions des phrases est vraiment particulière. Donc, la ponctuation, il n'y a pas de point et il n'y a pas de majuscule. Ça donne un rythme au roman qui est assez particulier. On est loin aussi, il y a d'autres auteurs là, qui ont plus été dans la figure de style de faire une longue phrase pour un roman, par exemple.
On se souvient du nouveau roman, Nathalie Sarraute et autres, c'était un mouvement à une époque aussi.
Exactement.
De déconstruire un petit peu tout ça.
C'est ça, mais donc là, vraiment, c'est juste qu'il n'y a pas de ponctuation. Donc, il n'y a pas de point et il n'y a pas de majuscule. Donc, mais ce n'est pas une longue phrase. Là. Il réussit quand même à découper les dialogues au travers de ça, puis à bien découper les pensées. Mais par contre, c'est sûr qu'il n'y a pas... C'est pas divisé en chapitres. Donc, on fait juste suivre le long fil de pensée d'Isoline dans ses aventures.
Qui est-elle?
Isoline est une assistante éditoriale pour une maison d'édition. Et donc, elle voit une autrice qui rentre, qui s'appelle Paula Cale. Et elle s'est rendue compte qu'elle habite pas très loin de chez elle. Donc, elle s'est dit, elle essaie de trouver une excuse un peu bidon pour rentrer en contact avec elle, sans savoir pourquoi. Elle était juste attirée par la personne. Donc, elle s'en va chez Paula Cale et elle la découvre en tentative de suicide. Donc, elle la trouve dans son bain avec les veines ouvertes. Elle la sauve. Et là, par la suite, Paula Cale, dans sa convalescence, décide de devenir un peu amie avec elle. Donc, elle la réinvite chez elle, fait rencontrer le mari, et elle essaie de convaincre Isoline d'écrire. Isoline, par contre, donc oui, elle est dans le milieu de l'édition et des livres et tout ça, mais elle a juste des titres en tête. Donc, il n'y a jamais de développement. Elle fait juste imaginer des beaux titres de livres, de chapitres, de qu'est-ce que ça pourrait être, sans développer plus que ça. Et donc, finalement, Paula Cale finit par... donc, ils ont entretenu une relation, mais finalement, ça finit par s'estomper jusqu'à ce que Paula Cale dépose encore une fois un dernier roman. Et là, elle refait une tentative de suicide, mais là, c'est pas juste une tentative, elle meurt pour de vrai. Donc, le mari avec qui Isoline était rentrée en contact revient voir Isoline, revient à la charge et lui dit « Écoute, j'ai l'ordinateur de Paula avec des écrits inédits. J'aimerais que tu publies. Peut-être si tu peux voir s'il y a quelque chose qu'on pourrait publier là-dedans, comme des inédits. » Et là, on tombe dans une obsession d'Isoline pour l'œuvre de Paula Kahl, et c'est ce qui suit par jusqu'à
la fin. Ce que tu nous racontes, quand même, il y a des choses assez dramatiques, sauf que de la façon dont tu en parles, puis il me semble que connaissant le tempérament de Turgeon, il y a une certaine désinvolture.
Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup d'autodérision aussi dans le livre. On suit, c'est vraiment le fil de pensée d'Isoline. Donc, on suit son personnage qui fait juste raconter l'histoire, mais elle se voit pas tomber dans cette obsession-là. Par contre, nous, on devine en voyant les réactions des autres personnage autour d'elle qui est en train de s'isoler, qui est en train de vraiment de créer quelque chose qui la coupe du monde, mais elle le voit pas. Et elle a fait juste continuer sa vie, et en fait, c'est les autres qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a même une certaine révolte par rapport à ça. Et sinon, en fait, c'est vraiment la dégradation psychologique là, du personnage. Il y a aussi des notes en bas de page que moi, j'ai trouvées intéressantes et très utiles parce que comme c'est Isoline qui écrit, elle s'adresse à son amie qui est correctrice pour la maison d'édition. Donc, elle lui dit « Oui, Rebecca, j'ai bien vu qu'ici, il manquait quelque chose, mais j'ai décidé de l'omettre. » Donc, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Et même plus loin, on tombe dans une autre sphère où Rebecca répond à Isoline. Donc, il y a comme une espèce de dialogue qui se fait. Donc, c'est pas un lecteur-voyeur, mais c'est plus un lecteur-correcteur.
Mm-hmm. Et ça devient presque un jeu.
Exactement.
T'as apprécié ta lecture?
Absolument. Absolument. Donc, je recommanderais fortement. Puis aussi, pour les initiés là, à David Turgeon, il reste un peu dans le même univers là, qu'il avait déjà créé. Donc, pour ceux qui savent, là, ils vont peut-être reconnaître des endroits, ils vont reconnaître certains noms qui ont déjà été utilisés. Donc, c'est pas pour éprouver les lecteurs, mais ça peut être aussi une bonne introduction là, à son œuvre. Tout n'est pas nécessairement relié, on comprend quand même très bien l'histoire, là, même si on n'est pas initié.
Le roman d'Isoline de David Turgeon s'est publié au Cartanier. Annie Saint-Pierre, merci beaucoup. Dans un instant, la promesse d'Iréna avec Moussimard. Je n'aime pas prononcer ce titre en anglais, Irina's Vow.
Ça se dit un peu mal.
Il me semble, hein? Moussimard, bonjour.
Bonjour.
En français, c'est La promesse d'Iréna.
Oui, ça sonne un peu mieux.
Un petit peu mieux. C'est le tout nouveau long-métrage de Louise Archambault. Moi, Louise Archambault, j'avais adoré Gabriel à l'époque. Ce qui est particulier, c'est que c'est la deuxième fois dans sa carrière qu'elle sort deux films à l'intérieur de 12 mois, puisque son dernier long-métrage, Le temps d'un été, était sorti à l'été 2023. Et là, moins d'un an plus tard, elle nous arrive avec un second film, qui est une production cependant qui a été tournée en anglais, Mo.
Oui, ça a été tourné en anglais. Il y a quand même... C'est l'histoire d'une jeune infirmière polonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale qui cache des Juifs dans la maison de l'officier pour lequel elle travaille.
Elle est un peu la boniche, hein,
oui,
c'est ça.
Oui, ben c'est la gouvernante de la maison. Le film est en anglais. On a certains bouts qui sont en allemand. Mm-hmm. Tout le monde a un accent, mais on est... En tout cas, c'est pas nécessairement tout le monde qui naturellement aurait cet accent-là, donc ça peut être... curieux pour certains d'entendre ça, mais...
Puis on est en Pologne.
Oui, on est en Pologne, exactement.
C'est une histoire vraie.
Oui, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui s'est passée justement pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est restée secrète très longtemps parce que l'infirmière Iréna Gout, elle a caché ça jusqu'en 1975. Et à ce moment-là, elle a eu une conversation avec un négationniste de l'Holocauste, donc il croyait pas que l'Holocauste était arrivé. Et elle a sorti cette histoire-là pour lui expliquer que c'était bel et bien arrivé et qu'elle avait aidé à... contrer ça un peu.
Cette femme-là qui est décédée en 2002, d'ailleurs. Ce qu'elle a vécu, ce qui est toujours étonnant lorsqu'on découvre ce genre d'histoire qui rappelle inévitablement la liste de Schindler, oui, d'une part, mais tout récemment avec Anthony Hopkins, aussi avec le film One Life qui est sorti, voilà, à peu près un mois, qui était l'histoire d'un Tchèque qui sauvait justement des Juifs. Je pense que c'était des enfants, j'ai pas vu le film. C'est des histoires qui sont extrêmement touchantes, mais ici, celle qui joue cette femme-là, c'est une Québécoise aussi. On a beau avoir tourné le film en anglais, elle est habituée de tourner en anglais. C'est Sophie Nélisse qui a une belle carrière aux États-Unis aussi.
Oui, oui. Ça fait plusieurs projets qu'elle fait. Avec pas beaucoup nécessairement d'espace entre.
Elle tourne beaucoup.
Oui, elle est vraiment partout. Récemment, elle était dans Yellow Jackets, qui est une série qui a commencé en 2021, donc ça fait quand même assez longtemps.
Il y a trois saisons, je pense, jusqu'ici.
Je crois qu'on a la deuxième saison. Okay. Deuxième saison. Mais je l'ai écoutée, mais je m'en rappelle plus. Mais...
ça, c'est l'histoire de l'équipe de quoi, de soccer?
Oui, l'équipe de soccer féminin. Qui se perd, qui crache dans les... Un peu comme Le Cercle des Neiges qui est sorti il n'y a pas si longtemps.
Oui, c'est ça. Oui, il y a un parallèle à faire ici. Donc, Sophie Nélisse interprète cette femme-là qui tente de sauver des Juifs en les cachant, on le disait, dans la cave du manoir d'un haut dirigeant allemand. L'histoire, on l'a résumé, puis il n'y a pas grand-chose d'autre à dire comme tel. Sophie Nélisse, tu l'as trouvée comment?
Je trouvais qu'elle jouait très bien. Honnêtement, c'était peut-être la meilleure actrice de tout le film.
Du lot, hein?
Elle jouait vraiment très bien. L'accent, elle a comme adopté un accent polonais, elle l'avait bien, je trouvais. Elle avait un peu le jeu d'acteur le plus fluide de tout le film. Les autres acteurs avaient... C'est peut-être aussi la faute du script qui était... À certains
endroits...
Je suis
un peu d'accord avec toi.
Ouais, c'est à certains endroits, c'était pas très...
Les Allemands très sont ici présentés comme des caricatures de nazis par moment. Mais on revient à la langue, et t'en parlais tout à l'heure, le fait qu'on soit en Pologne, entouré de Polonais, entouré d'Allemands, puis qu'on s'exprime en anglais, on voit bien que le film est destiné à un public international. Il y a une version française, on va se le dire, là, mais hormis ça... Moi, c'est rendu que j'ai un bug avec ça.
Ah, c'était...
Ça me brusque.
Oui, c'était un peu dommage parce qu'il y a des bouts en allemand, tout le monde a un accent, mais on prend pas le temps de faire le film dans la langue. Tu sais, tant qu'à être rendu là, tant qu'à faire le film, de mettre autant d'efforts à mettre juste certains bouts dans une autre langue, pourquoi pas faire le film au complet dans la langue?
C'est une coproduction. Le film a été... je sais que le Canada est derrière ça, mais je pense que la Pologne aussi. En tout cas, il y a de l'argent européen. Ça vient d'une pièce qui a été présentée sur Broadway. Il faut le dire aussi, ça vient du théâtre. Ce film-là nous présente quand même les Juifs que le personnage joué par Sophie Nélisse va essayer de sauver comme... Comment dire? Ils sont cachés. Puis ils sont frais rasés du matin, là. Ils sont lisses.
Oui,
on n'a pas l'impression, c'est peut-être bizarre à dire, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont entre la vie et la mort.
Non, mais le film, en général, on comprend que c'est une histoire vraie, mais on dirait une fiction. On croit pas vraiment que toutes ces choses-là s'est arrivé pour de vrai. Il y a certains moments dans le film où vraiment il se passe des choses rocambolesques, on se dit vraiment... C'est pas arrivé. Là, on va voir sur Internet et c'est vraiment... Ces choses-là sont vraiment arrivées.
Donc, c'est la façon dont c'est mis en scène.
C'est un peu difficile à suivre. On accroche un peu là-dessus parce que quand ça fait des mois que t'es caché dans une cave, t'es pas nécessairement
T'es plus crasseux, t'es affamé, il y a quelque chose... Il y a une urgence qui est censée apparaître à l'écran. Urgence, moi, que j'ai pas sentie.
Non, c'est un peu comme si... Les Juifs cachés dans le film, c'était plus des outils pour montrer le personnage d'Irena pour faire avancer sa mentalité, c'est comme
exactement.
Les événements du film, mais c'était pas vraiment des gens à part entière, outils pour le personnage principal.
C'est un film comme le nom de l'interprète principal, mais qui est trop lisse.
Ouais, c'est.
Peut-être. Et on se demande, à la vue du film, connaissant tout le talent de Louise Archambault, qui a notamment réalisé Il pleuvait des oiseaux aussi, qui avait connu un immense succès au Québec, adaptation d'un livre fort populaire, que c'est un peu une commande.
Oui, on dirait vraiment qu'elle a voulu faire un film pour un public international.
Mais Louise, on a un contrat pour toi, belle histoire. Es-tu capable de nous mettre ça en scène pour pas trop cher?
Oui, c'est exactement ça. Même que le budget en soi était pas si grand, c'est une information publique, c'était pas un super gros budget. Ça paraît quand même un peu dans...
Pour un film historique. Hein?
C'est ça, dans le scénario, dans les costumes.
Mais tu sais, la zone d'intérêt, tu l'as vu.
Oui.
C'est pas un gros budget non plus, puis il y a moyen de faire quelque chose.
J'ai l'impression que la zone d'intérêt, ils ont eu beaucoup de temps pour faire beaucoup de recherches sur la vie à l'époque en Allemagne nazie. Vraiment, les costumes, ça paraît, les coiffures. Mais dans La promesse d'Irena, on dirait un peu des costumes. On dirait pas nécessairement. Moi, je pourrais pas croire que ces gens-là ont vraiment vécu à cette époque-là.
Bon, ben voilà. Cela dit, La promesse d'Irena, je lisais présentement, je pense que c'est le deuxième meilleur départ de 2024 pour un film québécois. Donc, un public, du moins, qui est touché par ce sujet-là. À défaut d'aimer ou non le film, ça reste à voir, mais il y a un intérêt.
Oui, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment, qui ont adoré le film, vraiment, partout sur Internet. Il y a vraiment des gens qui parlent en long et en large de tout ce qu'ils ont aimé sur le film, mais je crois que ça dépend vraiment de sur quoi on accroche dans un film. Les accents, parler dans une langue comme ça, les costumes, des fois il y a des gens qui vont plus regarder ça, mais en même temps les histoires de Deuxième Guerre mondiale ça touche beaucoup les gens. Donc.
Puis souvent il y a des images d'archives évidemment où on nous montre les vrais personnages. Moi, je manque tout le temps de pleurer dans un générique quand
oui,
on voit les vrais
visages. C'est comme à la fin qu'on se rend compte que c'est arrivé pour de vrai.
Exactement. Moussimar, merci beaucoup. On se revoit, nous, pour...
Furiosa.
Furiosa. L'un des films les plus attendus de 2024. Là, t'es en train de faire tes classes avec Mad Max, là, non?
Oui, oui, oui. Mais j'avais déjà écouté le quatrième, mais là, je...
Quatrième avec Charlize Theron.
Oui, exactement.
Donc, le personnage joué par Charlize Theron, on revient dans sa jeunesse, joué par...
Anya Taylor-Joy.
Eh bien, voilà. Dans un instant, le mot de la fin. On a pris le décès aujourd'hui du cinéaste français Laurent Cantet. Cantet n'était âgé que de 63 ans, donc c'est une nouvelle triste. Cantet s'est surtout fait connaître pour le film Entre les murs, Palme d'or à Cannes, mais il avait aussi réalisé L'atelier, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et L'emploi du temps. L'emploi du temps, ce film extraordinaire, était inspiré de L'adversaire que Emmanuel Carrère avait écrit, qui s'inspirait de l'histoire de Jean-Claude Roman. Il y a eu un film également, L'adversaire avec Daniel Auteuil, et L'emploi du temps, c'est à peu près la même histoire, mais vraiment finement réalisé. Donc, Laurent Cantet qui est décédé à 63 ans. Annie.
Oui, donc petite suggestion de balado, L'essence du cinéma, donc c'est un balado qui est réalisé par Justice Rutacara, qui est un cinéaste de la ville de Québec. Et donc dans 6 épisodes d'une heure environ, on va décortiquer, il fait des entrevues avec différents corps de métier du cinéma. Donc on va avoir la direction de la photographie, la scénarisation, la composition musicale, la production, la réalisation, puis la direction artistique. Donc c'est
ça s'appelle
L'essence du cinéma.
Et c'est disponible?
Si on le tape dans sa barre de recherche, le deuxième. L'essence du cinéma, le balado.
Annie Saint-Pierre, merci beaucoup. C'était Pierre Blais pour Fahrenheit 89.1. On se retrouve jeudi prochain, 18h.
Fahrenheit 89.1 vous a été présenté par le Cinéma Le Clap, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation sur leclap.ca. Bon cinéma!
Salut, ici Calypso Lemoine, animatrice à CKRL. J'ai la chance d'animer l'émission En aparté tous les lundis à 19h. En aparté, c'est une émission qui couvre ce qui se passe dans le milieu culturel de la ville de Québec, dans les domaines de la danse, du théâtre et du cirque. Et je suis touchée et fière d'être la porte-parole artisane du Radioton 2024 de CKRL. Soyez généreux, généreuses envers votre magnifique et indispensable station communautaire. Nous comptons sur vous.
Le 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants qui sortent des sentiers battus, du 13 au 19 mai 2024. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca. Deux décennies de carrière auront permis à Kate Kuna d'assembler une œuvre musicale où l'insolence nourrit la beauté. Son dernier album double, Métastase, est acclamé par la critique. Il est sans équivoque l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus agiles de sa génération. Voyez Kate Kuna sur scène le 10 mai prochain à l'Impérial Belle de Québec. KateKuna.com pour toutes les dates de spectacle.
Du 29 avril au 17 mai, le Théâtre de la Bordée présente Nipple Jesus. Ce solo à la fois hilarant et captivant, mettant en vedette Charles-Étienne Beaune, est une adaptation d'une nouvelle de Nick Hornby, auteur des succès cinématographiques High Fidelity et Wild. Dave, ancien bouncer de bar de Grande Allée, devenu gardien de sécurité dans un musée d'art contemporain, raconte avec humour et intelligence les revirements de situation incroyables qui auront mené à ce qu'une œuvre bouleverse sa vie à jamais. Nipple Jesus, en formule 5 à 7. Réservez vos billets sur labordé.qc.ca.
L'émission Arcade Québec est une présentation du nouveau campus informatique 42 Québec qui offre une formation pas comme les autres dans un environnement stimulant, connecté sur l'industrie.